serviteur de l'Éternel.
Loué
le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Serviteur de l'Éternel.
Nous transforme. C'est ça qui est merveilleux. Ce matin, je vais vous parler de Tiklag. Quand j'ai montré ça à Lucille, elle a dit « Hein? Ticlin? Ticlin? » J'ai dit « Non, Lucille, Tiklag! » Pas Ticlin! Il y a deux semaines, on a eu la rencontre de la réunion de prière pendant la semaine, puis Pasteur Greg nous demandait qu'est-ce que Dieu nous montrait? Qu'est-ce que Dieu nous parlait dans cette semaine de prière? Puis, moi, ça m'a fait souvenir de l'histoire de Tiklag. Puis, c'est ça que ça me parlait durant cette semaine-là. C'est ça que ça me parlait. Ça me rappelait cette histoire-là, parce que des fois, on veut avancer, on veut aller de l'avant, on veut toujours aller de l'avant, on veut servir, mais des fois, on ne réalise pas qu'il y a un combat. Il y a un combat. Paul appelait ça le combat de la foi. Mais des fois, quand on est jeune chrétien, on oublie ça, le combat. On pense, on s'en va, puis on se pense invincible, puis on va de l'avant jusqu'à temps qu'on mange une bonne claque, des fois. Hein? Une petite claque. Hein? Parce que dans un combat, il y a deux choses. Il y a la défense, puis il y a l'attaque. Il y en a-tu des amateurs de hockey ici qui suivent le Canadien? M'en voir compter pareil. Il y a un défenseur des Canadiens qui s'appelle Arber Jackay. Hein? Puis lui, il est costaud, puis il aime ça se battre, puis tout le kit. Puis voilà quelques mois, ils ont fait venir son petit frère qui s'appelait Florian Jackay. Puis là, Florian aussi, il aime ça se battre. Puis lui, il voulait montrer qu'il avait sa place dans la Ligue nationale. Hein? Ça fait que là, la première game, il y a eu tout un combat. Tu sais, puis là, finalement, tout un combat. Puis ça s'est battu solide. Fait que le lendemain, dans les journaux, là, il y avait des commentaires là-dessus. Waouh, puis waouh. Puis Georges Larac, un ancien du Canadien, un homme fort, hey, il dit, ça n'a pas d'allure. Il dit, ça n'a pas d'allure. Il dit, s'il continue à faire ça, il dit, il va se faire arracher la tête. Fait que là, les autres, ils disent, ben pourquoi? Ben, il dit, lui, tout ce qu'il veut faire, c'est cogner, puis il dit, il n'y a aucune défense. Il dit, il va se faire ramasser. Parce que dans un combat, c'est pas juste l'attaque, c'est il y a la défense aussi. Puis Florian Jackay, il ne se défendait pas du tout. Fait que l'autre, il dit, il va se faire ramasser. Tu sais, ça me faisait penser quand je pensais à ça. Ça me faisait penser, le combat et l'attaque, ça me fait penser au verset dans Hébreux 12 qui dit, « Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Il nous dit de rejeter ça. Ça, c'est la défense. Puis l'attaque, c'est courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hein? C'est la défense, l'attaque. La défense, aller de l'avant. Hein? Quand on était jeune, avant qu'on forme un club de jeunes, on avait commencé avec... Ça s'appelait les Crusaders de la Pentecôte dans ce temps-là, hein, le premier. Puis on avait un uniforme avec un képi sur la tête. Puis là, les gens, ils ont tué de nous autres parce qu'on faisait un signe de même, hein. Tu sais, au lieu de faire ça, parce que, tu sais, qu'ils font comment dans l'armée, comme ça, ou comme ça, comme ça? Mais nous autres, on faisait ça comme ça. Mais nous autres, pour se moquer de nous autres, des fois, ils faisaient ça, tu sais. Hein? Mais on récitait quand même un verset qui disait, c'est pourquoi... Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les deux côtés, résister et tenir ferme. Résister et tenir ferme. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tiklag. Qu'est-ce que ça représente, Tiklag? Tiklag, ça veut dire, le mot veut dire en lui-même, enroulement. Ça veut dire sinueux. Sinueux, ça veut dire... C'est un piège. C'est un piège. Un piège de l'ennemi. L'ennemi, comme on a vu dans Hébreux, le péché qui nous enveloppe, qui nous enroule si facilement. L'ennemi qui nous enroule si facilement, qui peut nous enrouler si facilement. La ruse de l'ennemi. Puis Tiklag, on va lire qu'est-ce qui est arrivé à Tiklag dans 1 Samuel 30, 1 à 6. Lorsque David... C'est un épisode de la vie de David. Lorsque David arriva le troisième jour à Tiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi à Tiklag. Il avait détruit et brûlé Tiklag après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Il n'avait tué personne, mais il avait tout emmené et s'était remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Ahinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce qu'ils avaient tous de l'amertume dans l'âme, cherchant chacun à cause de ses fils et de ses filles. Un épisode terrible pour David. David avait été oint roi par Samuel. Puis là, dans ce contexte-là, il aurait devenu le nouveau roi. Mais là, dans le moment, Saül était encore en vie. Et David avait peur de Saül pour sa vie, donc il s'était sauvé chez les Philistins. Puis les Philistins, ils ont bien aimé voir David arriver. Et ils ont donné une ville qui s'appelait Tiklag. Puis là, David, il allait à la guerre avec les Philistins. Puis David, vu qu'il avait été, il allait être le nouveau roi, tous les gens de guerre, de renommée, s'en allaient avec David. Tous ceux qui n'avaient pas de place à aller, ils s'en allaient avec David, ça allait être le nouveau roi. Ça allait être le nouveau roi. Ça fait qu'eux autres, ils voulaient... David était en train de se monter une renommée. Puis les gens qui voulaient se faire de la renommée avec, pour eux-mêmes, bien, ils allaient avec David. Il était en train, David, de se monter une renommée. Puis tous les vaillants hommes, on voit ça dans 1 Samuel en dernier, tous les vaillants hommes de David qui étaient avec, voulaient aller avec David pour eux autres aussi profiter de sa renommée. Mais, puis là, il était rendu 600 hommes. Mais le problème, c'est que pendant que David est en train de se monter une renommée, puis d'aller à la guerre pour les Philistins, pendant ce temps-là, il a oublié qu'à Tiklag, il y avait sa femme, ses enfants, puis toute leur maison, puis il a laissé ça sans défense. Parce que lui, ses yeux étaient juste tournés vers sa renommée. Devenir le roi, devenir le grand roi David. Puis tous les vaillants hommes qui s'en allaient avec lui, vous lirez ça, les vaillants hommes de David, c'était pas des deux de pique, des deux de pique. Hein, vous lirez ça, là? Fait que lui, tout ce que ses yeux étaient tournés, c'était vers ça. Mais il a oublié une chose. Il a oublié de laisser une garnison à Ticlade pour protéger sa femme et ses enfants. Et souvent, on voit ça arriver de nos jours. On voit ça arriver dans nos églises régulièrement. C'est juste que des fois, je voyais ça quand j'étais dans les Laurentides. Tu voyais arriver un nouveau pasteur à une église. Puis là, s'il y avait une certaine renommée, une certaine notoriété, tu voyais tout le monde à courir et s'en aller avec lui pour participer avec lui, pour participer à sa notoriété puis à sa grandeur. Mais des fois, il oublie de protéger ceux qui sont à la maison. Puis c'est la même chose des fois pour les carrières. Il y a des gens qui vont se faire une carrière, ils vont s'en aller dans leur carrière à fond de train, ils vont aller dans la carrière, puis en go, 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 puis en voient plus clair. Mais il oublie de protéger ce qui est à la maison. Ça peut être d'un carrière, ça peut être d'un ministère, ça peut être d'un sport. Quelqu'un qui s'en va dans le sport au maximum, mais il oublie de protéger ce qui est à la maison. Il n'y a rien de mal dans un ministère. Il n'y a rien de mal dans une carrière. Il n'y a rien de mal à se faire des gros sports. Il n'y a rien de mal à aller profiter de la notoriété de David avec ses vaillants hommes de David. Il n'y avait rien de mal là-dedans. Mais par contre, ce n'est pas juste l'attaque. Ce n'est pas juste aller de l'avant. C'est qu'il faut protéger ceux qui restent à la maison. Ça prend les deux côtés. Ça prend les deux côtés. Il avait oublié de protéger leur arrière. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'ennemi est venu, il a ramassé Ticlag, puis s'est en allé avec. Puis comment de chrétiens qui ont bien commencé leur vie chrétienne, puis qu'ils voulaient aller de l'avant au maximum, aller plus loin avec Dieu, puis l'ennemi est venu, puis il a ramassé leur arrière. Puis ça a brisé leur vie. Ça a brisé le ministère. Ça a brisé, ça les a brisés. Je le sais, pour l'avoir vécu. Ce qu'on voit ici, ça dit, ils pleurèrent jusqu'à temps qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Ils pleurèrent parce que, jusqu'à temps qu'ils n'avaient plus la force de pleurer. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Pourtant, David, juste avant de devenir roi, lui, il avait accueilli tout le monde. Il avait accueilli tout le monde, lui. Tout le monde qui voulait aller avec David, David disait, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. On voit ça dans 1 Samuel 22, 2. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, il y avait des créanciers qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de David et il devint leur chef. Et il se joignit à lui environ 400 hommes, juste d'une shot là. Dans 1 Samuel 22, 23, il va dire aussi à Abiathar, le souverain sacrificateur, « Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui te cherche, qui cherche ma vie, cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. » Lui, il avait accueilli tout le monde, mais tout d'un coup, il arrive une épreuve. Paf, les 600 sont plus là. Les 600 parlent de le lapider. Les 600 parlent de le lapider. Toute une épreuve. C'est sûr qu'en plus de se trouver tout seul, les 600 sont partis et ils en veulent à la mort, ils veulent le lapider. En plus, lui-même, il devait se sentir cheap devant Dieu. Parce qu'il devait dire, j'aurais donc dû. Hein? J'aurais donc dû. Il a dû y penser certain. Il a dû y penser certain. D'aller dire, ouais, j'aurais donc dû. J'aurais donc dû laisser une garnison. J'aurais donc dû laisser protéger la ville, les familles, les troupeaux. C'était peut-être pas le temps d'arriver puis y dire un verset. Hein? Parce que des fois, dans les années 80, on était fort pour dire des versets, hein? On aurait peut-être pu arriver et lui dire, Il est vrai, David, que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais elle produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. C'était peut-être pas le temps de dire ça. Peut-être qu'il m'aurait lapidé. C'était peut-être pas le temps de dire ça. C'était peut-être pas le temps. Il était dans la tristesse. Dans la tristesse. David, il n'avait pas été à la bonne place. Mais ça n'avait pas été fait intentionnellement. Des fois, tu n'y penses pas quand tu t'envoies de l'avant. Quand tu t'envoies de l'avant, tu n'y penses pas. Tu n'y penses pas. Ce n'est pas intentionnel. Lui, il voulait faire la bonne chose. Mais dans la vie, l'expérience, ça vient sur le terrain. Tu ne penses pas nécessairement à défendre les choses. Mais après une expérience comme ça, croyez-moi, David, les prochaines fois, il va laisser quelqu'un à la garnison. Amen. Ticlac, qui veut dire un piège de l'ennemi, un enroulement. Là où l'ennemi vient à l'improviste. Lui, pour lui, Ticlac, ça a été beaucoup de choses. Mais nos Ticlac à nous, dans chacun de nos vies, ça peut être des circonstances. Ça peut être la maladie qui vient, puis on s'en attend pas. Ça peut être un licenciement. Ça peut être un deuil. Ça peut être la maladie d'un enfant. Puis que nous, on veut juste de l'avant. Puis tout d'un coup, ouf, ça nous frappe. Nos petits clags à nous. Comment on réagit? C'est pas de notre faute. Des fois, oui. Mais des fois, c'est pas de notre faute. Ici, David, mettons-nous à sa place, ça allait mal. Samuel, le prophète, était mort. Saül, il était sur le point de finir sa vie, il avait recours à la sorcellerie. David était caché chez les Philistins. Ticlag était incendié. Ses deux femmes, ses fils, ses filles ont été emportés. Ouf! On peut-tu comprendre qu'ils ont pleuré jusqu'à épuisement? On peut le comprendre. Si ça serait arrivé aujourd'hui, il aurait donné des antidépresseurs. Ça, c'est sûr. Des tranquillisants. Hein? Certainement qu'il devait se dire pourquoi? 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 Mais des fois, il n'y a pas de réponse au pourquoi. Il y a juste une expérience à apprendre. Une expérience à apprendre. Quelque chose à apprendre. Ça dit au verset 6b, « David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Il était tout seul. Il était tout seul. Personne pour l'encourager. Il était obligé de s'encourager lui-même. Ça a-t-il arrivé des jours où vous avez été obligé de vous encourager vous-même? On aime ça quand on vient à l'église, la louange nous encourage. Des fois, le prédicateur nous encourage. Des fois, il y a une personne qui nous donne une bonne parole et qui nous encourage. Je me souviens, quand j'étais plus jeune dans le Seigneur, j'allais à l'église, puis j'aurais donc eu besoin d'une parole. Je ne sais pas si vous êtes déjà senti de même. J'avais donc besoin d'avoir une parole qui m'aurait encouragé, de main sur l'épaule, puis qui aurait prié pour moi. Puis je sortais de l'église, puis il me semble que j'étais lourd. Personne ne m'avait encouragé. Mais c'est dans ces temps-là qu'il faut faire comme David. Ça dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Faire comme David, c'est toute une leçon pour nous. David, il exprimait ses sentiments dans les psaumes. Il était capable de parler à Dieu. Il était capable de lui dire. Il était capable de lui dire qu'est-ce qui arrivait. Je lisais le psaume 142. Ça dit, « Cantique de ma voix, je crie, j'implore, je répands ma plainte, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, tu connais mon sentier, ma route où je marche, ils m'ont mis un piège. » Elle était capable de s'exprimer devant Dieu. Amen. Quand on est dans la détresse, est-ce qu'on est capable de s'exprimer devant Dieu? Est-ce qu'on est capable? Il dit aussi dans le psaume, jette les yeux à droite et personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Est-ce qu'on est capable, comme David, d'aller chercher notre encouragement directement au Seigneur? Directement au Seigneur. Je ne sais pas c'est quoi votre méthode. Il y en a qui prient. Il y en a qui jeûnent. Il y en a qui prennent leur guitare puis qui chantent. Il y a une de mes amies, elle apprend sa guitare puis elle chante. Puis ça l'encourage devant le Seigneur. Je ne sais pas c'est quoi votre méthode, mais il faut trouver notre méthode. Il faut trouver notre façon de faire pour être capable d'aller devant le Seigneur afin qu'il nous encourage quand personne d'autre est capable de nous encourager. Amen. Puis des fois, même au milieu des expériences difficiles, il arrive des choses extraordinaires. Il arrive des choses extraordinaires. Je lisais une histoire un moment donné en France d'un petit garçon de 9 ans. Puis lui, il allait toujours dans l'atelier de son père, puis son père était sellier. Puis il travaillait le cuir, puis il a dit à son père, « Quand je vais être plus grand, je vais être sellier aussi. » Bien, son père, il dit, « Bien, comment tout de suite? Prends-toi une perforatrice, un morceau de cuir, fais-toi un motif, puis commence à le percer, mais fais attention. » Il commence à percer son morceau, paf, la perforatrice a revolé, elle a revolé dans l'œil, ça a crevé son œil, puis ça a abîmé l'autre. Fait que, quelques mois plus tard, il a perdu la vue de l'autre œil. Il était tout excité de travailler pour son père, mais il arrive une catastrophe. Quelques années plus tard, en jouant dehors, puis en prenant des pépines de pain? Des épines de pain? Des affaires en pain, là. C'est tout rugueux. Là, il a vu, lui, qu'il y avait une texture, puis il y avait des points, puis le kit. Il a commencé à penser à ça. Puis il a eu l'idée de créer un alphabet avec des points. Puis son nom, le petit gars, s'appelait Louis Braille. Puis ça a donné l'écriture en braille. Je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais si j'aurais été à sa place, moi, j'aurais fait comme les gens de Darwin, j'aurais braillé. Mais on voit ici que quand il arrive des circonstances, des fois, il ressort des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Quelle était la défense de David? La défense de David, c'était d'aller devant le Seigneur. De relever son âme devant le Seigneur. La défense de David. Quelle est notre défense dans nos petits lags qui nous arrivent dans nos circonstances de la vie? Quelle est notre défense? Est-ce qu'on s'appuie sur le Seigneur? Est-ce qu'on s'appuie sur le Seigneur? Est-ce qu'il est notre bouclier? Est-ce qu'il est notre refuge sur la terre des vivants? Est-ce qu'il est notre secours? Et qu'est-ce que ça a fait lorsque David est allé devant le Seigneur? Ça l'a porté. Sa défense était faite, ça l'a porté à agir. Ça l'a porté, là maintenant, à aller à l'action. Ça dit dans le verset 7 et 8. Ah, c'est ça que je voulais dire tantôt. Il dit au sacrificateur Abiathar, « Apporte-moi l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David, et David consultant l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Amen. Puis là, quand je lis ça, là, avez-vous vu ici? Zéro reproche de la part de l'Éternel. Hein? Des fois, nous autres, on aurait pu dire à David, on te l'avait dit, hein? Hein? Ou tu vas attendre un peu, là, puis quand tu seras plus mature pour être roi, là, on reviendra. Hein? Des fois, on est durs, les humains. Mais Dieu, ici, il répond. Et il fait zéro reproche. Zéro reproche. Parce que c'est une expérience de vie que David devait comprendre. Puis des fois, tu ne comprends pas les choses en les étudiant dans un livre. Tu comprends les choses en les vivant. En les vivant. Puis là, ça devient vivant dans ton cœur, dans ton âme. Puis là, tu le sais que c'est vrai. Puis là, David, il savait que c'était vrai. Il n'avait plus besoin que le Seigneur lui dise. Il le savait. Poursuis, tu atteindras. Il était passé de la défaite, de la défense à l'attaque. Hein, dans le psaume 144, il pouvait dire, David bénit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite, mon libérateur, mon bouclier, qui est mon refuge. Amen. Il poursuit l'ennemi. Mais là, il fallait qu'il soit encouragé, parce qu'il y en avait 600 à encourager pour aller avec lui. Ah. Fait qu'il fallait qu'il soit vraiment encouragé. Il a dû dire aux 600, « Levons-nous, l'Éternel sera avec nous, poursuivons, allons-y, allons de l'avant. » Puis c'est vrai, parce qu'ils l'ont suivi. Donc, ils ont relevé les 600. Puis là, ils sont arrivés, ça dit, ils sont arrivés au torrent de Bessar, et David se mit en marche, et les 600 hommes qui étaient avec lui, à Yéza pépé, ils arrivèrent au torrent de Bessar, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400, 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent. Moi, quand je lis ça, là, ils ont resté avec les bagages, puis ils ont resté avec ce qui restait de personnes. Moi, quand je lis ça, est-ce que c'est vraiment vrai qu'ils étaient juste trop fatigués? Ou bien non, que c'est vrai qu'il fallait qu'il reste quelqu'un avec les bagages? David, peut-être qu'il n'avait pas laissé personne à Tiklag, mais il aurait dit, je ne me ferai pas jouer le tour une deuxième fois. Cette fois-ci, il va rester quelqu'un au campement. Hein? Il va rester quelqu'un au campement. Il y en a 200 qui sont restés au campement. Puis il y en a 400 qui sont allés à la bataille. Parce qu'avec Dieu, que tu sois 200 ou 400, Dieu peut donner la victoire comme il veut. Amen. 200 sont restés là, au torrent. Après ça, on voit que des fois, les outils de Dieu, c'est pas la manière de faire de Dieu, c'est pas notre manière. Hein? C'est-à-dire, en s'en allant, il poursuit, mais il ne sait pas trop où il s'en va, là, mais il poursuit. Hein? Il poursuit. Il dit, on y va, mais il ne sait pas trop où il va. T'sais? Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qui conduisirent auprès de David et lui firent manger du pain et de l'eau. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu? » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens, sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tiklag. » Oh, il trouve quelqu'un qui était dans l'expédition qu'ils ont brûlé, mais quelqu'un qu'ils ont laissé comme mort, qu'ils ont laissé comme mort. Mais là, le Seigneur l'utilise afin qu'il soit restauré par David, afin aussi de s'en servir pour amener David là où Dieu veut l'amener. Amen. Les outils de Dieu, les outils que Dieu choisit. Ça fait penser que Dieu choisit souvent des outils qui sont brisés pour faire son œuvre, des outils que Dieu peut façonner. Le monde, contrairement, le monde de nos jours, tant qu'un homme il est fort, il est riche ou ben non, il est sage, c'est semblable, il l'utilise. Puis quand il n'est plus bon à rien, on le laisse de côté. Ça, c'est le monde. Mais le Seigneur, lui, souvent, il utilise des objets brisés. Des objets brisés. Des objets qui sont maganés. Mais lui, le Seigneur, il les restaure. Il les relève. Il fait son œuvre dans leur vie. Il les utilise afin que la gloire lui revienne. Amen. Qui en retire toute la gloire. Il utilise un objet brisé pour le diriger vers la victoire. Après ça, on va voir la délivrance de l'Éternel. Il lui servit ainsi de guide, et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant et buvant et dansant. À cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. et aucun d'eux n'échappa. C'est-tu pas merveilleux? La délivrance de Dieu. La délivrance de Dieu. Quand je lis ce verset-là, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant. Ça nous fait-tu penser sur qu'est-ce qui va arriver à la fin des jours? Hein? Le peuple était comme dans le temps de Noé. Hein? Ils mangeaient, buvaient, dansaient, faisaient leurs affaires jusqu'au jour où Dieu va revenir. Ou ça fait penser à un autre verset que je vous ai marqué dans 1 Thessaloniciens 5:3. Oh! OK, je n'avais pas fini de lire tantôt. Hein? Bien, ça dit qu'il y en a tout ramassé. Quand les hommes diront « sûreté et paix », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Hein? C'est ce qui est vraiment arrivé aux Amalécites, mais ça va arriver aussi à la fin des jours. Notre monde aujourd'hui, ils sont mangeants, dansants, buvants, puis ils ne s'attendent pas à rien, puis ça dit « paix et sûreté », mais un jour, le Seigneur va revenir. Puis ils vont être pris, puis ils ne s'en attendront pas, puis ça va arriver. Fait qu'ici, on va voir la grâce de l'Éternel. Ça dit, après qu'ils ont eu tout pris le butin, ils s'en reviennent avec. David arriva auprès des 200, et là, ils reviennent. David arriva auprès des 200 qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent de Bessar. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants qui étaient parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, on leur donnera rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'ils les emmènent et qu'ils s'en aillent. » Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. Hein? » Ce n'est pas eux autres qui le... Eux autres, ils disaient le butin de David. Mais David, il dit, « C'est ce que l'Éternel nous a donné. » Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. » Et qui vous écouterait dans cette affaire-là? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Ça me fait penser souvent. Dans l'Église, il n'y a pas de ministère plus important. Il n'y a pas de ministère plus important. Celui qui prêche, celui qui chante, ce n'est pas plus important qu'un autre ministère. Un ministère de placeur, ça le prend, c'est important. Tu sais, nous autres, on disait à l'Église, même le ministère du verre d'eau, celui qui amène un verre d'eau, sa récompense lui sera donnée dans le royaume de Dieu. Les ministères, ça parle dans 1 Corinthiens, sont tous égaux devant Dieu, sont différents, mais sont tous égaux devant Dieu. Un prie, un loue, un fait des chants, un prêche, un fait l'accueil, un fait l'école du dimanche, un intercède. Mais chaque ministère est important devant Dieu. Il n'y en a pas un qui est plus important que les autres. Pas un qui est plus important ici, c'est ça que David va leur faire comprendre. Les 200 qui sont restés, ils ont pris soin du campement, c'est aussi important que ceux qui sont allés à la guerre. Il l'a réalisé parce que la première fois, il avait été à la guerre avec les 600, puis l'ennemi est venu enlever le campement. Mais là, il venait de réaliser que c'est aussi important de prendre soin du campement que d'aller à la guerre. C'est aussi important. C'est aussi important. C'est aussi important. Les autres ne voulaient pas partager, mais il dit, c'est aussi important. Les ministères sont égaux. Et Paul le dira dans la même chose dans l'Évangile aux Romains. Lorsqu'il va parler à l'Évangile aux Romains, dans l'Évangile aux Romains, il y avait des gens qui étaient forts spirituellement, puis il y avait des gens qui étaient faibles spirituellement, puis il y avait des Juifs convertis, puis il y avait des païens convertis. Fait que Paul, il leur dira, vous êtes tous égaux devant Dieu. Il va leur dire dans Romains 15, verset 1, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Les 400, ils voulaient se complaire en eux-mêmes, là. Puis ils voulaient pas partager. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ensemble. J'aime la fin de l'histoire, parce que la fin de l'histoire, ça dit, de retour à Tsiklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda. Il n'a pas juste donné aux 400 et aux 200. Là, il a envoyé aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles, « Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. » Il donnait à tout le monde. Il ne voulait plus oublier personne. Il avait oublié du monde au campement, mais là, aujourd'hui, il avait appris sa leçon, là, il ne voulait plus oublier personne. Puis vous lirez la liste, là, j'ai mis hein, que le verset 26, ça continue à 27-28. Il a envoyé des présents à tout le monde, même à ceux qui avaient fait du tort. Et il ne voulait plus oublier personne. Et j'ai aimé ce matin la parole de Sylvie. Elle dit, on ne veut pas oublier personne. On ne veut pas oublier personne. Puis c'est une parole de Dieu, ça. C'est une parole de Dieu. On ne veut pas oublier personne. Une église qui ne veut pas oublier personne, c'est une église que Dieu va bénir. C'est une église qui va aller de l'avant. C'est une église que le Seigneur va être glorifié. On ne veut pas oublier personne. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 10, 42? « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Il ne perdra point sa récompense. Ne pas oublier personne. La fin de l'histoire, David, il avait oublié sa famille, ses femmes, ses filles. Mais il s'est relevé avec le Seigneur. Il est allé de l'avant. Le Seigneur lui a donné la victoire. Puis ça termine l'histoire en voulant dire, « Je ne veux plus oublier personne. Je ne veux plus oublier personne. » Il n'y a pas eu des reproches de la part de Dieu, rien. Parce que ça faisait partie de son expérience d'apprendre. Tsiklag. Tsiklag. Qu'est-ce que ça nous apprend, les leçons de Tsiklag? Les leçons de Tsiklag, ça nous apprend, une première leçon, ça dit, attention lorsqu'on avance à ceux qui sont avec nous. Attention à notre conjoint, à nos enfants, à nos amis dans le Seigneur. Attention à leur donner une protection. Attention que le combat de la foi, il y a deux côtés. Il y a la défense et il y a l'attaque. Attention de ne pas juste être un homme d'action ou une femme d'action, mais soyons un homme de combat spirituel, un homme qui va prendre soin, un homme qui va faire attention avec ceux avec qui marche avec eux. Puis le deuxième affaire, la deuxième leçon de Tsiklag, c'est quoi qu'il arrive, on est à l'école de Dieu. Les épreuves, souvent, c'est l'école de Dieu. Puis nous faire saisir ce qu'on n'a pas compris par la douceur, ce qu'on n'a pas compris dans un livre, mais qu'on va comprendre dans l'expérience pratique. Mais le Seigneur, il veut qu'on réalise que, par contre, il sera toujours là. Il sera toujours notre appui. Il sera toujours notre secours. Il sera toujours notre forteresse. Il sera toujours notre rocher. Et lorsqu'on va aller à lui, il va nous entendre et il va nous répondre immédiatement, comme il a fait avec David. C'est ça la deuxième leçon. Puis la troisième leçon, c'est qu'il sera avec nous dans nos combats. Et la quatrième chose, c'est qu'il nous veut victorieux. Il nous veut victorieux dans notre vie. Il voulait un David victorieux. Il voulait un David qui aille de l'avant. Il ne voulait pas un David abattu. Il voulait un David roi devant lui. Mais un David qui lui redonne toute la gloire. Le Seigneur nous a donné. Le Seigneur soit béni. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous, frères et sœurs. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. On va demander aux musiciens de s'avancer. On va terminer avec un chant. On va prier ensemble. Et s'il y en a qui ont besoin pour de la prière individuelle, gênez-vous pas de venir. On va prier ensemble afin que Dieu fasse un œuvre. Mais on va prier en terminant. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui est la vérité, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce passage de Tiklag, Seigneur, qui nous apprend beaucoup de choses, Seigneur, sur nous-mêmes, sur la vie chrétienne, sur le combat de la foi. Et apprends-nous, Seigneur, à se confier en toi. À se confier en toi. Et lorsque viennent nos Tiklag dans nos vies, apprends-nous à s'appuyer sur toi parce que tu es notre rocher. Tu es notre salut. Afin qu'on puisse dire, le Seigneur était là avec moi. Bénis chaque personne dans ce lieu ce matin. Au nom de Jésus. Amen.